19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bien, bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez. On démarre une toute nouvelle semaine, et qui dit toute nouvelle semaine, ici même dans les informés, jusqu'à 20h, nous sommes ensemble pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. Au programme, ce que je vous propose. Tout d'abord, nous reviendrons sur un voyage d'un reporter assez étonnant, d'un écrivain qui s'appelle Claude Janvier, qui rentre de Syrie, qui nous racontera un petit peu la manière dont son étonnant voyage s'est déroulé pendant un peu plus d'une semaine en Syrie. Et puis son ouvrage « Le virus et le président », une enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'histoire, avec évidemment Claude Janvier et Jean-Louis Isambert. 19h30, vous le savez, c'est le billet d'humeur de Maître Philippe-Henri Honegger, qui reviendra sur l'affaire Balkany. Et puis, le face-à-face, Rudy Cassis avec Emmanuel Dupuis sur trois sujets qui ont retenu notre attention. Alors, ces trois sujets, chers amis. Marlène Schiappa qui dit que la campagne n'est pas très sérieuse. Bon, ça veut dire quoi qu'elle n'est pas très sérieuse? Ensuite, après, nous irons nous intéresser, vous savez, à un autre sujet, un second sujet qui a retenu notre attention. Le scandale de nouveau de retour dans les EHPAD. La patrouille de Corian défend son modèle privé en appel à l'État. Au secours. Que se passe-t-il? Eh bien, on en parlera, absolument. Référendum d'entreprise et temps de travail. Que faut-il comprendre? Parce que sans passer par la case syndicat et évidemment solliciter les employeurs, ça me semble compliqué. Cette proposition de Pécresse, est-ce qu'elle risque pas de faire certaines vagues? Voilà. Le 01 53 48 3000, c'est vous. Au 01 53 48 3000. Vous nous appelez à tout moment, vous le savez. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les informés en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et quand on dit en toute liberté d'expression, c'est vraiment une liberté d'expression. Hein. C'est pas juste une phrase comme ça qu'on lance sur les ondes.
Pas de censure ici. Hein.
Pas de censure. L'invité du jour, c'est parti.
Les informés, l'interview.
L'interview aujourd'hui, on la consacre, vous savez, à un écrivain qu'on qualifierait même d'ailleurs de écrivain polémiste. Alors, il nous dira pourquoi. C'est Claude Janvier. Claude Janvier qui a écrit un ouvrage avec, co-écrit avec Jean-Louis Isambert, Le virus et le président. Une enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'histoire aux éditions IS Éditions. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, Claude Janvier.
Bonjour.
Bon, comment ça va?
Eh ben, très bien, très très bien. Je suis ravi d'être avec vous ce soir.
Ben, écoutez, ravi partagé. Qu'est-ce que c'est que ce virus et le président de votre ouvrage? Est-ce qu'il prend forme? C'est quoi ce virus?
Ah ben écoutez, c'est le virus qui est arrivé à point pour masquer une crise économique, sociale, culturelle qui existait quand même bien avant l'arrivée de ce virus providentiel. Bon. Je dis virus providentiel parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on ne parle plus que de ça et on en oublie un peu où on en était en France en 2019 et même avant. C'est-à-dire avec une industrie qui est totalement bradée, c'est-à-dire qu'avec plus de 200 milliards de cadeaux fiscaux au grand PDG du CAC 40, mais ça, c'est sourcé, hein, c'est dans notre livre, etc. Et nous avons quand même enquêté sur le nombre de pauvres en France, et malheureusement, nous arrivons à un chiffre effarant de 15 800 000 pauvres sur 32 millions d'actifs. Là aussi, c'est sourcé. C'est effarant.
Absolument. C'est quoi cette grande tromperie de l'histoire dans votre ouvrage? Vous en parlez avec Jean-Louis Isambert, le co-auteur.
Eh ben, la grande tromperie, c'est parce que justement, on met en avant cette histoire de virus et c'est bien pratique pour masquer, pour tout masquer. C'est-à-dire qu'en ce moment, si vous voyez ce qui se passe, Macron fait tourner la planche à billets. Alors qu'avant, pour augmenter le SMIC, il n'y avait jamais moyen. Pour augmenter les retraites, il n'y avait pas moyen non plus. Pour doter plus de budget les hôpitaux publics, il n'y avait jamais moyen non plus. Et là, en revanche, tout d'un coup, le virus, tac, on fait marcher la planche à billets. En veux-tu, en voilà.
C'est rare, Claude Janvier, de parler d'un écrivain et de dire derrière polémiste. Un écrivain polémiste. Autant je savais que ça existait chez les journalistes, mais un écrivain polémiste. Bah. Vous en avez quelques-uns, on les connaît, c'est des vedettes, mais pourquoi on vous qualifie d'écrivain polémiste?
C'est parce que j'ai l'habitude d'écrire des billets d'humeur et des coups de gueule, et en général, je mâche pas mes mots. Donc,
j'ai vu ça.
C'est vrai que je suis un peu acide, mais donc voilà, et donc on m'a qualifié effectivement d'écrivain polémiste.
Dites-moi, vous rentrez de Syrie?
Oui.
Alors, la Syrie, justement, vous rentrez de Syrie il y a peu de temps d'ailleurs.
Oui.
Et cette Syrie, aujourd'hui, vous l'avez laissée comment, mon cher? D'abord, pourquoi vous êtes rendu en Syrie? Pour quelle raison?
Eh ben, tout d'abord, j'ai été coopté par un écrivain arabe syrien qui s'appelle Adnan Azam et qui a eu la gentillesse de me coopter, moi et mes six autres amis. Ça a été aussi patronné par l'association des écrivains arabes syriens, derrière Adnan Azzam, il y a toute cette association. Et il voulait vraiment faire venir des écrivains, des journalistes, des géopolitologues et des politologues pour témoigner, pour voir, pour montrer un peu où en est la Syrie aujourd'hui.
Donc, justement, parlons-en. Vous avez fait une plongée d'un voyage assez d'ailleurs surprenant, étonnant, pendant plus d'une semaine en Syrie. Un pays ravagé aujourd'hui, vous le confirmez, hein?
Ah bah, je confirme. Si vous voulez, on a fait cinq grandes villes de Syrie. On a fait Damas. Alors, il faut savoir qu'on a fait Damas, Alep, Latakié, ça c'est le grand port. On a fait ensuite Soueda dans le sud et Dera, qui est une ville tout en bas dans le sud, qui a été libérée depuis moins de 3 mois. Grâce à la diplomatie russe et grâce aussi au gouvernement légitime syrien. Si vous voulez, ça fait un choc. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne suis jamais allé dans un pays en guerre. Et quand vous mettez le pied dans un pays en guerre...
Ah, j'ai vu vos photos. Hein.
Ah oui, c'est quand même impressionnant.
Ça préoccupe, hein, c'est impressionnant.
Ah ben moi, j'ai pris une claque. Pour parler un langage franc, j'ai pris une claque parce que...
Vous êtes mis en scène derrière des bâtiments en ruine, etc.
Oui, mais...
Vous êtes quoi prendre une claque, effectivement.
J'ai pris une claque parce que... La grande différence de voir en images à la télévision des ruines, bon, ça fait un choc. Mais quand vous les voyez de visu, c'est-à-dire quand vous êtes sur place et que vous vous rendez compte de l'effroyable de ce qui s'est passé, et là vous vous dites ouf quand même quoi. Il faut savoir que Alep, ça fait vraiment un choc. Vous savez, la ville a été détruite à 75%. Ils ont même dynamité la mosquée. Ils ont dynamité les souks séculaires qui dataient du 14e siècle.
Quel était l'objectif?
L'objectif, c'est de détruire. C'est détruire et mettre à bas le pouvoir en place qu'il y a toujours, donc le président Bachar el-Assad et son gouvernement. Le but, c'est ça. Mais le but derrière, c'est la coalition aussi internationale qui voulait, en fait, si vous voulez, pour la faire un peu court, c'était toujours pareil, piller les ressources naturelles de la Syrie, c'est-à-dire le pétrole et le gaz.
Donc, conséquence, on en est là, quoi. Désastreuse, si je comprends évidemment ce que vous nous racontez, Claude Janvier.
Bah, d'autant plus désastreuse que peut-être pas beaucoup de gens le savent, mais il y a toujours un embargo sur la Syrie qui date quand même depuis 2014.
Imposé par qui ?
Imposé par les Américains. Il faut savoir que les Américains sont toujours en place en Syrie et contrôlent le pétrole et le gaz syrien. Ils ont toujours une base énorme à Al-Tanf, dans le sud de la Syrie. Et il y a toujours l'embargo américain qui a été décrété...
Américain et Union européenne.
Et Union européenne, qui a été décrété à l'époque sous la présidence de Barack Obama et qui a été en plus entériné par Trump derrière avec un tour de clé. Il faut savoir qu'un embargo, qu'est-ce que ça fait pour un peuple syrien ? Ça empêche toute reconstruction de la Syrie, parce qu'en fait, une entreprise étrangère qui voudrait investir sur le sol syrien se verrait mise à l'amende par les USA. Ça empêche l'arrivée de médicaments, ça empêche l'arrivée de produits de première nécessité. Et ça, c'est complètement dramatique, parce que vous avez des enfants et des nourrissons qui meurent tous les jours en Syrie à cause de cet embargo. Il faut voir qu'il y a une inflation terrible dans ce pays. Il faut voir, moi, j'ai vu des queues de files indiennes, de gens qui attendaient avec leur ticket de rationnement.
Mais c'est sérieux ce que vous êtes en train de me dire, Claude Janvier. Ça veut dire qu'on veut asphyxier le peuple syrien ?
Absolument.
Oui ?
On veut absolument.
Ah, vous me direz en plus, vous me confirmez.
Je vous le confirme. C'est-à-dire, si cet embargo n'a pour but que d'asphyxier le peuple syrien pour faire en sorte
que
le président Bachar al-Assad puisse s'en aller. Or, je n'ai jamais vu un peuple aussi soudé derrière son président. Il faut savoir qu'en Syrie, vous avez des sunnites, des druzes et des alaouites. Mais peu importe leur différence, ils sont tous unis derrière le président Bachar el-Assad. Et ça, c'est assez incroyable. Et
ils aiment leur président.
Ils aiment leur président parce que leur président n'a pas voulu rentrer dans le jeu de la coalition internationale, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu qu'on lui pille ses réserves naturelles. Et pour ça, il paye le prix fort, puisque effectivement...
Oui, parce que rappelons à nos auditeurs qu'elle est détentrice évidemment de ressources pétrolières, la Syrie.
Absolument. Absolument.
Comment on peut le... C'était un voyage d'études ?
Oh, c'est un voyage de témoignage.
De témoignage.
C'est-à-dire qu'on était là.
Qui va se traduire comment ?
Bah, on a fait une lettre ouverte, là, qu'on a essayé de publier un peu partout. On va publier un opuscule dès qu'il sera fini sur nos différents discours que l'on a prononcés dans chaque ville. Et on va essayer d'organiser un colloque, mois de juin, et faire venir des Syriens à Paris. Et vraiment de les laisser s'exprimer. Avec le concours, on espère, d'un média odieux, voilà. Mais, on essaye vraiment de dénoncer. En fait, ce qu'on voudrait, c'est que cet embargo s'arrête. peu importe.
Comment lever cet embargo?
Il faudrait que ce soit une décision unilatérale entre les Américains et l'UE, quoi. Et quelques autres pays. Il faudrait vraiment que ça soit une décision ferme. Ils arrêtent l'embargo.
Claude Janvier, monsieur l'écrivain, comment se porte le pays économiquement aujourd'hui?
En Syrie?
Oui.
Eh ben, écoutez, étonnamment, j'ai trouvé ce peuple très courageux. Franchement, le peuple syrien, ça force le respect. Ce sont des gens, ils en ont pris plein la figure. Il faut savoir quand même que c'est une guerre qui a fait à peu près 300-400 000 morts. Il faut savoir que chaque famille syrienne, je dis bien chaque famille syrienne, est endeuillée par la perte d'un fils qui est mort à la guerre. Il faut savoir que ce peuple a énormément souffert. Je trouve aujourd'hui très courageux parce qu'ils ont le sourire.
Vous avez échangé avec le peuple syrien?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous racontent?
Ils nous disent qu'il faudrait que cet embargo s'arrête et ils disent que vraiment, ils n'ont qu'une envie, c'est que tout ce cauchemar s'arrête. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas prêts à abandonner la lutte en disant stop à cet embargo.
Et ils vivent comment quotidiennement, mon cher Claude Janvier?
Eh bien, ils vivent
dans la misère, ils vivent ils survivent, j'ai envie de vous poser la question.
Eh ben écoutez, ils vivent relativement assez bien pour pas mal. Ils cultivent leurs propres légumes, mais là je dis bravo parce que c'est pas du tout évident, parce qu'ils ont rien. Il n'y a pas d'exportation qui se fait. Il n'y a rien qui arrive en Syrie. Alors évidemment, il y a quelques laissés pour compte.
Oui.
Malheureusement, il y a des laissés pour compte. Mais ce que j'ai vu un peuple fier et courageux. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup impressionné, vous voyez. C'est-à-dire que si vous voulez, j'en ai vu pas mal dans ma vie, mais il y a un avant et un après.
Vous avez pris beaucoup de photos?
Ah oui, j'en ai plein des photos, oui, absolument.
Vous comptez faire quelque chose avec ces photos, publier un reportage?
Ben, pourquoi pas? Écoutez, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que pourquoi pas?
Bah oui, laisser une trace.
Absolument, oui, ça peut être c'est une excellente idée. Je vais voir ça avec mes amis, là, puisqu'on était six, on était sept, en fait, à participer à ce voyage, absolument. Oui, oui.
Aujourd'hui, si je vous dis, l'embargo, il est qualifié de criminel, d'ailleurs, c'est vos propos.
Oui.
Pourquoi un tel mot aussi fort, évidemment, pour parler de cet embargo concernant le peuple syrien aujourd'hui? Qui, selon vous, est prise en otage?
Bah, si vous voulez, le peuple, tous les jours, on souffre. Donc, il y a quand même des gens qui en meurent. Mais vous savez, la dernière perfidie, par exemple, sous couvert d'aide humanitaire des Américains, c'est qu'ils ont fait livrer fin novembre 2021, donc c'est tout à fait récent, juste avant que nous y allions d'ailleurs, des semences de blé en aide humanitaire. Sauf que le gouvernement syrien s'est méfié parce qu'il s'est dit, là, il y a quand même anguille sous roche. Ils ont fait analyser ces semences. Les semences étaient contaminées. Mmh. Ça veut dire qu'en fait, elles auraient donné naissance à des épis de blé tout à fait contaminés et impropres à la consommation. Mais en plus, elles étaient contaminantes. Ça veut dire qu'elles auraient contaminé le sol, la terre, rendant impropres les cultures. Donc, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose d'assez ignoble, là. C'est très inhumain, c'est totalement inhumain et tout à fait ignoble.
Claude Janvier, vous nous dites tout à l'heure, Alep, une ville martyr, hein, justement,
oui,
détruite
absolument.
À combien de pourcents?
75%.
75%, c'est énorme.
Ah, c'est énorme, mais tout comme Dera en
énorme,
bas,
ouais.
la ville dans le sud où nous sommes allés, elle a été aussi détruite à 75%.
Alors j'imagine que tout le patrimoine qui date du combien, 13e, 14e, 15e siècle?
Alep, oui, 13e, 14e, ça a été... Alors, sauf la forteresse d'Alep, ils ont essayé de la dynamiter, mais elle est tellement costaud qu'elle a résisté.
Donc, aujourd'hui, ma question est très simple. Comment compte se redresser, justement, la Syrie?
Eh bien, ils aimeraient bien quand même que cet embargo s'arrête. Heureusement, ils peuvent compter quand même sur des alliés indéfectibles, tels que la Russie.
La Russie, les Turcs aussi.
Les Turcs, pas du tout.
Pas du tout.
Puisque les Turcs font partie quand même de la coalition internationale. La Russie, la Chine et l'Iran.
Ah oui, pardon, je parlais de la Chine, parce que la Turquie, c'est vrai.
La Turquie, pas trop.
Vous avez raison, pas trop non plus. C'est très juste que vous dites.
Russie, Chine, Iran, ils comptent sur leur allié indéfectible.
Bon. Vous êtes parti, évidemment, avec quand même un message d'espoir. On arrive au terme de cette interview concernant, évidemment, votre voyage d'études. Hein, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça.
Oui, témoignage.
Témoignage,
oui,
un voyage de témoignage et d'études. Quel message d'espoir vous avez, évidemment, à nous livrer aujourd'hui de votre retour de ce voyage de Syrie?
Je pense qu'il ne faut jamais abandonner la lutte à partir du moment où on lutte pour une noble cause.
Vous avez signé, avec une délégation française, une tribune.
Oui.
On a des journalistes, écrivains, Jean-Michel Fernochet, c'est ça? Emmanuel
oui.
Leroy.
Oui.
Pierre-Emmanuel Thoman.
Oui, géopolitologue, oui.
Maria Poumier, Yves Béraud, Claude Janvier, vous-même. Donc, tous un message, lequel?
Stop à l'embargo.
Stop à l'embargo.
Stop à l'embargo, vraiment. Mais vraiment. J'insiste.
Vous avez interpellé les députés qui sont en charge justement de ces territoires?
Écoutez, le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de députés en charge du territoire. J'ai interpellé quand même madame l'ambassadeur qui a été nommée par Emmanuel Macron pour la Syrie, c'est-à-dire elle n'est pas à Damas, hein, elle est à Paris. Je lui ai demandé un rendez-vous, ça fait plusieurs fois que je demande un rendez-vous, aucune réponse.
Lettre morte,
absolument.
Bon, écoutez, vous nous tenez au courant de votre événement au mois de juin?
Absolument, avec grand plaisir.
Le témoignage,
je vous inviterai.
Absolument, et grand plaisir aussi partagé. Mon cher Claude Janvier, vous êtes écrivain polémiste aussi notamment. Vous rentrez de Syrie avec ce voyage qu'on va découvrir très prochainement. Donc vous l'avez annoncé en exclusivité, j'ai bien compris, une publication d'un reportage photo, mais également aussi avec un événement que vous comptez organiser donc pour le mois de janvier. Un ouvrage à ne pas manquer, chers auditeurs. Le virus et le président. Enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'histoire aux éditions IS Éditions. De co-auteur Jean-Louis Isambert et vous-même Claude Janvier. À bientôt alors, Claude Janvier.
Un grand merci, vraiment un grand merci.
Écoutez, partagez et au plaisir. À bientôt, mon cher Claude Janvier. Nous poursuivons donc les informer avec le face-à-face, mais également aussi vous aussi au 01 53 48 3000. À tout de suite, ne bougez pas avec Rudy Cassis et Emmanuel Dupuis.
Les informer revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informer avec Adil Farkan.
Deux choses, chers amis auditeurs. Le standard, notez bien.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je vous attends au standard pour venir commenter donc les propos de Marlène Schiappa qui dit que ce n'est pas une campagne sérieuse pour le moment. Écoutons le texte, écoutons le petit court extrait sur chez nos confrères.
Dire qui on est, pourquoi on fait cela.
Je crois que les gens savent qui est Marine Le Pen. C'est la fille.
Apparemment,
de...
non. Elle estime qu'elle n'est pas assez connue des Français sur cet aspect-là. Elle se normalise.
C'est son regard sur elle-même, si vous voulez. Ça illustre encore une fois ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des candidats qui parlent beaucoup d'eux-mêmes. Et il y a une campagne un peu rabougrie. L'extrême droite veut rassembler l'extrême droite. La gauche essaye de rassembler la gauche. La campagne à gauche, c'est devenu une vaste centrale d'appel téléphonique.
Gauche, hein, d'ailleurs, ouais.
Je viens de la gauche et c'est pour ça que je suis triste de voir l'état de la gauche aujourd'hui. La campagne de la gauche, c'est une centrale d'appel téléphonique où chaque semaine, il y en a un qui dit j'ai appelé les autres, machin était sur répondeur, un tel m'a pas rappelé, je lui envoie une
Bon, effectivement, pardonnez-moi, rabougrie, c'est pas mal ça comme expression. Elle estime que c'est une campagne présidentielle rabougrie. Que vous en pensez, les amis auditeurs? 01 53 48 3000, le face à face.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Emmanuel Dupuis, le boss de l'Ipse. Comment ça va, boss?
Ça va.
Il aime bien quand
tout
on l'appelle
boss. Tout va bien,
boss,
ouais.
Il kiffe.
L'autosatisfaction n'est pas mon fort.
Ouais, vous n'êtes pas encore entré en campagne, hein?
Si,
ça y est.
La campagne n'est pas rabougrie.
Ouais.
Elle est rabougrie pour ceux qui
ne la font pas. Elle est rabougrie ou pas?
Elle est rabougrie pour ceux qui ne la font pas. Et d'ailleurs, on va en débattre.
Allez, face à vous. Non, vous savez, c'est un élu républicain.
Ah non, je ne suis pas républicain.
Élu. Vous êtes un républicain avant tout.
Alors, je suis élu de la République française.
C'est voilà. Pas les républicains.
C'est pas la même chose.
Non, je suis IDI, mais je suis pas...
Comment ça va, mon cher Rudy Cassis?
Très bien.
Bon, tout va bien?
Oui, et vous, cher Adil?
Ça va. Alors, dites-moi, messieurs, nous allons parler de rabougrie, justement. Cette campagne présidentielle... Est-ce que c'était le mot à utiliser, Emmanuel Dupuis?
Non, mais la ministre est assez familière des mots qui ne conviennent pas. Comment peut-on parler d'une campagne...
Clochette! Aïe, il y va fort, hein.
Comment peut-on parler d'une campagne rabougrie alors que son propre candidat fait tout pour pas rentrer en campagne? Vous m'excusez l'expression, mais c'est quand même une campagne à côté de la plaque,
ouais.
Hein, si jamais on veut jouer de jeu de mots. Je pense que la ministre mériterait avant tout de s'occuper de ses propres...
On est d'accord que tu parles de rabougrie. C'est absurde. C'est le mot absurde, en gros.
Parce que.
En gros, elle veut utiliser le mot absurde. C'est ça qu'elle veut dire.
Elle veut paraphraser, effectivement, une campagne qui, pour l'instant, est.
Je pense qu'elle veut noircir un peu le tableau.
Est aussi balbutiante, hein, et c'est normal. Il reste encore maintenant, je crois, un petit peu plus que 65 jours. Donc il reste encore du temps. Et les Français ne sont pas encore convaincus. Ils sont encore très préoccupés par la question sanitaire, les crises internationales. Les grands meetings commencent cette semaine, ce week-end, le week-end dernier.
Et on en a vu
Fabien Roussel hier, Marine Le Pen et... Et Éric Zemmour également, Valérie Pécresse samedi prochain. Et Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, il y a quelques jours également. Je crois que les choses se mettent en place. Le seul problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des candidats qui font campagne courageusement, quel que soit
Qui, par exemple, qui?
Bah, tous ceux que j'ai cités. Tous ceux que j'ai cités, même.
Moi, Roussel, j'aime bien, hein,
Fabien
j'aime
Roussel,
bien.
Fabien Roussel.
Dans le ton, hein, je suis pas.
Fabien Roussel,
poussé,
dans mais... son couloir ou dans son roussellement, puisque c'est le mot qu'il a utilisé, est parfaitement digne d'intérêt. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas communistes, mais qui trouvent qu'ils s'en sortent très bien. Non, le problème, c'est qu'on a un certain nombre de ministres qui font mine de ne pas faire campagne et qui jouent tout de suite la deuxième tour en essayant de préserver leur candidat.
Mais elle dit quand même, elle dit, cette campagne manque cruellement de sérieux à seulement 2 mois du premier tour. Ça veut dire quoi, cruellement de sérieux?
Non, mais après, faudrait lui demander d'approfondir son propos. Mais je crois voir dans quel sens elle va. Moi, j'ai l'impression surtout, en fait...
Elle veut dégommer les autres pour faire exister Macron. Bah, c'est comme ça que je le comprends.
Elle veut le singulariser.
Je
vous réponds.
Alors, allez-y.
Ce que je vois, c'est qu'à l'image du président de la République, donc président jupitérien, il y a une volonté, en fait, de se placer un petit peu au-dessus des débats. Et ça déteint un peu sur le gouvernement. D'où cette critique un petit peu... Une critique un peu en hauteur. Enfin, en tout cas, de son point de vue. C'est pour ça qu'elle critique la campagne de cette manière par rapport à comment ça a débuté avec les débats autour de l'immigration, autour de la percée d'Éric Zemmour, autour des droites les droites de la droite qui semblent, qui se bourrent la moue, etc. et qui à un moment donné a orienté un peu le débat, en tout cas au départ de la campagne, même lorsqu'elle n'était pas encore officielle. C'est de ça dont elle veut parler. Mais non, en fait, chacun a le droit de faire les constats qu'il veut. Elle a le droit de dire ce qu'elle dit. De toute façon, dans sa position, je l'imagine pas dire autre chose. Mais maintenant, on attend de voir ce que elle a à faire et ce qu'elle a à dire, ainsi que son gouvernement, pour démontrer que la campagne pourrait être autre chose. Parce que lorsqu'elle parle de rabougri, elle parle aussi du ton qu'il y a pu avoir dans la campagne. C'est vrai que quand on a écouté Zemmour ou Marine Le Pen, que ce soit en meeting, etc., j'ai entendu quelques extraits du meeting d'Éric Zemmour. Franchement, c'est un candidat républicain au sens politique du terme, il y a des trucs qu'on entend qui rappellent quand même
cas,
un petit peu.
Ça prend, hein.
Ça pique quand même. Mais maintenant, que propose En Marche? Je veux dire, quand on parle d'ensauvagement de la société, on peut reconnaître qu'effectivement ça existe, qu'il y a des augmentations de violence, etc. Mais même dans le climat politique, les politiques entre eux se parlent pas de la meilleure manière possible. Et même le président de la République, hein, je vais pas vous rappeler ce qu'il avait dit à propos des Français qui ne sont pas vaccinés, etc. Ce qui n'est pas forcément digne d'un président qui veut rassembler les Français. Mais justement, maintenant, on veut les entendre sur des paroles sages, sur des paroles rassembleuses, etc. Est-ce qu'ils
Alors
sont capables de le
est-ce
faire
Est-ce que les candidats parlent beaucoup, justement, d'eux-mêmes? C'est ce qu'elle dit. Hein. Ils parlent beaucoup d'eux-mêmes et on n'a pas une campagne. Ah, c'est pour ça qu'elle parle de rabougri. Parce que les candidats parlent que d'eux-mêmes.
Et on a un président de la République qui, au mois de décembre, a dit j'ai changé, ma façon de faire a blessé les Français, j'ai changé. Il parle de lui-même. C'est-à-dire, en fait, il fait une espèce de rétrospective concernant sa personne qui aurait évolué sur la période du quinquennat. Ce qui n'est pas vraiment le cas lorsque.
Emmanuel Dupuis.
Oui, tous les candidats parlent d'eux-mêmes. Je rappelle qu'à l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme. Donc, forcément, vous allez élire quelqu'un.
Ou d'une femme.
Mais alors c'est quoi? Bien sûr. Qu'on doit parler d'eux-mêmes ou est-ce qu'ils doivent parler d'un programme?
Mais c'est les deux.
C'est les deux?
C'est les deux.
C'est quoi la campagne présidentielle? C'est l'incarnation d'un personnage, c'est quoi?
C'est l'incarnation de l'État à travers qui, selon la Constitution, est garant de ce qui fait société. Donc forcément, si vous élisez quelqu'un et vous ne le connaissez pas, et vous n'avez pas l'intime conviction que c'est le meilleur, ben effectivement, ce n'est pas une campagne présidentielle, c'est une campagne législative. Parce que les programmes, je termine, les programmes sont importants, mais je rappelle que selon notre constitution, c'est le Premier ministre et le gouvernement qui gouvernent, et le président préside. Donc c'est tout à fait normal que les Français doivent mieux connaître leur candidat. Je vais même plus loin, le fait que ce soit pour certains d'entre eux des présidents de parti, qui sont évidemment très emprunts de leur mobilisation,
de l'élection présidentielle.
Et qu'il y ait des nouveaux venus. C'est vrai qu'Éric Zemmour était peu connu pour être un responsable politique, donc à un moment ou à un autre, ils doivent un petit peu se dévoiler. Donc cette critique est vraiment nulle et non avenue.
19h31, pardonnez-moi Rudy Cassi, mais je ne veux pas prendre de retard surtout. C'est le billet d'humeur de Maître Philippe. Non, vraiment, il faut que je le lance, parce qu'il est 19h38 et je vous donne la parole promis. Quoi de neuf?
Les informés, le quoi de neuf?
Le quoi de neuf, c'est avec Maître Philippe Henri Honegger chez Ruben et Associés. Bonjour mon cher Maître.
Bonsoir, comment ça va, Dil?
Mais plaisir de vous... Maître, et j'espère que vous allez bien. Nous allons vous écouter pour, évidemment, le billet d'humeur que vous avez décidé de consacrer l'affaire Balkany.
Ah oui, parce que j'essaye toutes les semaines un peu de vous parler de l'actualité du droit pénal. Et forcément, aujourd'hui, l'actualité du droit pénal, c'est Monsieur Balkany et son affaire maintenant célèbre, dont on pourrait presque se dire qu'il serait un support idéal pour tous les étudiants en droit, pour essayer de connaître, de mieux comprendre toutes les différentes situations de détention qui existent, parce qu'il se trouve que M. Balkany les a presque toutes connues. D'abord, le mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, je vous parle comme si je parlais à des étudiants, vous savez, le mandat de dépôt, c'est ce qu'a connu M. Balkany quand il a été condamné à une peine de 4 ans et qu'il a été incarcéré immédiatement. C'est un mode d'exécution des peines. Puis la détention provisoire. La détention provisoire, c'est quand on est présumé innocent, mais qu'on est en attente du jugement. C'est ce qu'il a connu également quand il a décidé de faire appel de cette première décision en attente de la deuxième décision, parce que vous savez qu'il y avait deux affaires qui lui étaient reprochées.
Oui. On ne peut pas voir l'écran télé, là.
Oui, oui, mon cher maître. Non, mais on vous écoute, mon cher maître.
Ah, pardon. Et puis, la libération sous contrôle judiciaire, puisque pour raison de santé, on ne peut pas être maintenu en détention quand c'est incompatible avec son état de santé. Et puis ensuite, après avoir eu sa condamnation, il a connu le bracelet électronique. Le bracelet électronique, c'est un mode d'exécution de la peine à la maison, pour des raisons de santé ou parce qu'on a d'autres activités à l'extérieur, mais si on ne respecte pas son bracelet électronique, par exemple en sortant des limites plus de 100 fois, en ne payant pas les amendes fiscales qu'on avait à payer, ou en ne répondant pas aux convocations judiciaires, alors on a ce qui lui est arrivé aujourd'hui, la révocation du bracelet électronique et le retour à la case prison, dans son cas à la prison de Fleury-Mérogis. Et c'est vrai que quand on voit ça, on a l'impression de parcourir grâce à lui, ou en tous les cas grâce à son affaire, l'intégralité du code de procédure pénale, avec cette question quand même qu'on peut se poser et qui mérite d'être posée, est-ce que la prison est utile? Est-ce que la prison est utile dans son cas et de manière générale? Et c'est vrai qu'on pourrait avoir cette idée que dans le cas des infractions financières, peut-être que la prison n'est pas tellement utile, c'est-à-dire qu'il ne représente pas un danger immédiat, ni pour les biens, ni pour les personnes. Le fait qu'ils soient en liberté ne cause pas un trouble à l'ordre public tel qu'il faille absolument l'isoler du reste de la société. Ce qu'ont estimé les juges par ailleurs, c'est que, attendez, quand vous êtes condamné à une peine de 4 ans, puis une autre peine de 4 ans, c'est-à-dire une peine extrêmement importante, il est peut-être nécessaire d'aller passer un peu de temps en prison, parce que les faits sont d'une telle gravité que la prison, la sanction de la prison n'aurait pas de sens si vous n'allez pas en prison. Et puis le bracelet électronique, c'est intéressant parce que ça aide quand même aux gens de se réinsérer ou en tous les cas de trouver un cadre de vie dans lequel la prison ne va pas vous détruire entièrement. Et le but de la prison, c'est pas de détruire les gens, tant mieux qu'il y ait le bracelet électronique pour ça. Mais quand on se moque de la justice, quand on se moque de la justice au point de ne plus respecter du tout son bracelet électronique, on peut se dire qu'à ce moment-là, la prison, ça a un petit peu plus de sens. Ce monsieur, ce soir, il se retrouve malheureusement à la prison de Fleury-Mérogis. Et puis, vous savez, l'autre débat qui va se poser, mais c'est la justice. Elle est laxiste, elle est politique. On s'acharne contre Balkany. Ou au contraire, d'autres qui vous diront, mais attendez, Balkany, au contraire, il a eu un traitement de faveur. Et moi, je vous le dis, il a eu un traitement très privilégié, parce que je peux vous dire que quelqu'un de pas connu, qui aurait violé 100 fois son contrôle judiciaire, son bracelet électronique, il serait retrouvé au bout de 2 fois en prison. Et en même temps, hasard du calendrier, vous avez vu que M. Guéant, qui lui-même a été réincarcéré parce qu'il n'avait pas respecté les obligations qui lui avaient été fixées dans le cadre de sa condamnation, 2 mois à peine après avoir demandé de ressortir, a obtenu visiblement un jugement qui lui est favorable et il va ressortir mercredi de prison. Donc vous voyez les cellules VIP, parce que ces gens-là, ils ont le droit aux cellules VIP, elles se vident, elles se remplissent au gré des règles du code de procédure pénale et au gré de l'application, à mon sens, de ce qui est la loi, pas particulièrement laxiste, pas particulièrement sévère, pas particulièrement politique, juste l'application des règles du code de procédure pénale que maintenant M. Balkany doit maîtriser sur le bout des doigts.
Absolument, merci pour ce beau billet d'humeur que vous nous avez livré ce soir. Donc comme chaque lundi, à lundi prochain, sans faute, mon cher maître Philippe-Henri Honegger.
Je serai là, comme toujours.
Ruben et associé. Merci à vous, mon cher maître.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Les informés. Le face-à-face.
Rudy Cassis, en quelques mots d'une phrase, qu'est-ce que vous vouliez nous dire concernant, évidemment, avant de retrouver le quoi de neuf? On va ouvrir votre micro, par contre.
À propos des histoires personnelles des candidats, je dirais quelque part, c'est normal que les présidents, enfin les candidats à l'élection présidentielle veulent incarner le pouvoir, parce que en général, de plus en plus, on vote plus pour ce qui émane du candidat que le programme. On va quand même regarder le programme, mais on regarde aussi ce que dit le candidat, son charisme, etc. Je pense que ça s'inscrit totalement dans la configuration de la Ve République, puisque c'est une Ve République qui a été taillée sur pièce sur le général de Gaulle et pour le général de Gaulle. Et si on regarde cet illustre personnage, c'est quand même quelqu'un qui a incarné le pouvoir et qui a incarné la France. C'est un peu ce qu'on retrouve dans une certaine continuité avec les candidats à l'élection présidentielle.
Emmanuel Dupuis.
Oui, alors il faut contextualiser un petit peu. Marlène Schiappa s'en prenait à Marine Le Pen. Alors on peut quand même légitimement, et vous ne pensez évidemment pas que je vais défendre Marine Le Pen politiquement, mais c'est vrai que Marine Le Pen a besoin de se faire un prénom. Elle a un nom, mais elle a besoin de se faire un prénom. Et c'est ça en fait dont il était question quand elle a pris la parole à la fin de son meeting. Donc cette forme d'incarnation, d'humanisation de la campagne, moi je ne vois absolument rien.
Une mauvaise chose,
moi je vois absolument rien de critiquable en ça. D'autant que les électeurs, j'aimerais être aussi optimiste que Rudy, ne regardent pas vraiment le programme. Jusqu'au dernier moment, ils hésitent par rapport aux faits et gestes, et surtout par rapport aux dires, c'est-à-dire
allez,
ce que les grands médias disent de leur programme.
On va lancer donc la seconde pub. Je dois lancer la seconde pub, s'il vous plaît. On va se retrouver avec Karim Amlal, l'ambassadeur chargé de la Méditerranée, justement en direction Marseille, où on retrouve le Forum des mondes méditerranéens qui s'est tenu depuis ce matin et jusqu'à demain. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, il est 19h40 en direct. Nous sommes ensemble pour poursuivre et comment continuer à commenter et décrypter donc justement l'actualité qui a secoué la journée. Direction Marseille parce que ça a été voulu par le président de la République, le chef de l'État Emmanuel Macron. C'est le Forum des mondes méditerranéens. C'est parti pour l'invité du jour.
Les informés, le Quad 9.
Direction Marseille, bonjour, nous sommes avec l'ambassadeur chargé de la Méditerranée, monsieur Karim Amlal. Bonjour monsieur l'ambassadeur.
Bonjour monsieur Farkan, comment allez-vous?
Mais très bien, je vous remercie, nous sommes en direct avec vous de ce forum qui se déroule aujourd'hui et demain à Marseille. Donc nous sommes avec vous en direct à Marseille. Alors ça a été voulu par le président de la République Emmanuel Macron, ce forum des mondes méditerranéens, vous l'avez eu. Comment s'est ouvert justement ce forum aujourd'hui? Et on sait d'ores et déjà que le président, le chef de l'État Emmanuel Macron a proposé un discours qui était orienté vers la diaspora, mon cher ambassadeur.
Oui, bien sûr. C'est d'abord une cérémonie d'ouverture qui a eu lieu avec beaucoup de monde et beaucoup plus de monde que ce à quoi on s'attendait, puisqu'il y a eu 4000 personnes qui se sont inscrites dans des conditions, on le sait, très difficiles. Le président de la République a voulu malgré tout continuer et organiser cet événement. Il a fait un discours d'ouverture extrêmement fort, parce que d'abord il a affirmé l'ambition méditerranéenne de la France avec des annonces, pas si on y reviendra, mais particulièrement puissantes, notamment un fonds de soutien d'entrepreneurs de 100 millions d'euros tournés vers les pays du Maghreb. Et puis, comme vous le dites, Adil Farkan, il a rappelé le rôle essentiel, structurant des diasporas en France. Il a eu des mots très forts, il a parlé de richesse, il a parlé de France plurielle, et je crois que ça nous invite effectivement à nous mobiliser en faveur de cette ambition méditerranéenne, qui est vraiment le but du forum.
Si vous permettez, monsieur l'ambassadeur, monsieur Karim Amlal, on va écouter un court extrait justement du chef de l'État Emmanuel Macron. Écoutons justement cet extrait.
Vous retrouvez dans ce forum des mondes méditerranéens aujourd'hui à Marseille, c'est acter cette volonté au fond de ne pas céder à la fatalité, celle qui voudrait que la Méditerranée devienne uniquement un espace où l'on parle de terrorisme, de réfugiés, de migration, de difficultés économiques, de dégradation de notre environnement, un espace fracturé malheureusement par des conflits géopolitiques depuis trop d'années, de la défiance entre certaines parties prenantes gouvernementales et parfois de plus en plus, si on écoute certains, entre les deux rives.
Monsieur l'ambassadeur, entre les deux rives, justement, vous dites l'objectif pour vous c'est de trouver des solutions concrètes pour les enjeux méditerranéens, c'est-à-dire, monsieur l'ambassadeur?
Ben, c'est-à-dire que, effectivement, et le président a raison évidemment de rappeler ça, c'est que quand on regarde la Méditerranée, rien ne va plus, hein, comme dirait l'autre, et comme on dit au casino, c'est-à-dire qu'il y a plein de difficultés qui s'accumulent, des tensions politiques, des conflits même, hein, dans certains pays. Donc, quand on regarde froidement cette région du monde, bon, il y a de quoi être désespéré. Et pourtant, il y a des acteurs engagés, volontaires, les sociétés civiles, des entrepreneurs, des artistes, des intellectuels, des porteurs de projets qui, dans tous les pays de la Méditerranée, se mobilisent chaque jour au quotidien autour d'un certain nombre de solutions justement pour répondre à nos défis communs. C'est quoi ces défis? C'est des défis très concrets, hein, qui parlent à tout le monde et on est tous concernés. De Marseille, où je suis maintenant, à Alger en passant par Beyrouth ou Alexandrie, c'est l'urgence climatique, c'est l'environnement, c'est la biodiversité, c'est la formation, c'est les questions d'emploi, c'est la culture, la préservation du patrimoine. Sur tous ces sujets, bien sûr qu'on peut parler des difficultés politiques et des divergences, mais on peut se retrouver pour faire avancer les choses et pour trouver des solutions. C'est ce qu'on veut faire à Marseille et c'est le chemin que veut tracer le président de la République.
Quelle est la promesse, monsieur l'ambassadeur, de ce forum qui se déroule durant 2 jours?
Ben, la promesse, déjà, c'est de réunir, de rassembler, on en a bien besoin après 2 ans de pandémie, des acteurs de la société civile. C'est ceux qui font, ceux qui créent, ceux qui innovent, ceux qui inventent la Méditerranée d'aujourd'hui et plus encore de demain. C'est la jeunesse. Bon, on y est arrivé, je vous ai dit, il y a 4000 personnes qui se sont inscrites. On a réussi dans des conditions très compliquées à faire venir 500 personnes de toute la Méditerranée, des porteurs de projets, des jeunes, des entrepreneurs, ici pendant 2 jours à Marseille, justement pour parler des solutions. Donc le but, c'est de se rassembler, c'est de dialoguer, c'est d'identifier des solutions, des projets qui fonctionnent. Et puis c'est aussi, et le président l'a fait avec des annonces fortes, hein, trouver des financements. Et puis c'est, je crois, surtout porter, alors un espoir, vous me direz oui, des mots, etc. Bon, oui. D'abord, le président a donné la petite démo, mais il a aussi mis des actes en face. Et puis c'est une mobilisation générale qu'il faut provoquer pour cet espace que nous aimons, qui est constitutif de notre identité. Oui. On est tous méditerranéens, la France est un pays méditerranéen, et il faut qu'on se mobilise tous, et d'abord les sociétés civiles, et bien justement pour trouver des solutions et avancer vers un avenir qui soit plus partagé, plus désirable et meilleur pour tous.
Karim Amlal, monsieur l'ambassadeur, dernière question. Quel est le message que vous avez envie de porter à la diaspora, cette diaspora franco, justement, africaine, franco-maghrébine, franco-asiatique? Qu'est-ce que vous avez envie de leur livrer comme message, et notamment durant ces 2 jours de forum?
Bah, écoutez, moi, c'est un message, et c'est le message qu'a porté le président de la République, finalement, c'est qu'il faut... oui, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y en a en France, il y en a en Europe, il y en a évidemment en Méditerranée, il y en a dans tous les pays. Alors, on a toujours deux... il y a une alternative, il y a 2 options. Soit on regarde ce qui ne va pas, et on fait le constat, et on constate, et on n'avance pas, et on fait du surplace. Soit on regarde ce qui ne va pas, c'est vrai, on identifie les problèmes, et on regarde surtout comment on peut trouver des solutions, comment on peut avancer, comment on peut se frayer un chemin. Et je crois qu'en France, comme ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Les diasporas ont un rôle essentiel à jouer, un rôle crucial. Il faut surmonter un certain nombre de divergences, un certain nombre de préoccupations, et puis se mettre autour de la table et voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter à notre pays et ce qu'on peut apporter à nos pays en réalité. C'est ça la beauté des diasporas, le président l'a dit, il faut parler de traits d'union, de passerelles. Comment on bâtit des passerelles? Et c'est, je crois, le plus important, et puis faire résonner nos identités plurielles, parce que c'est ça la France, nous aimons la France, et ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts, les passerelles avec nos pays d'origine, bien au contraire. Donc le Forum des mondes méditerranéens, c'est vrai que c'est un événement marseillais, européen, méditerranéen, mais c'est aussi un événement profondément français, parce que c'est de nous qu'il s'agit au fond.
Merci infiniment. Ça se passe jusqu'à demain au Parc Chanot à Marseille, le Forum des mondes méditerranéens. Merci monsieur l'ambassadeur chargé de la Méditerranée.
Merci à vous.
Monsieur Karim, là c'est jusqu'à demain, donc au Parc Chanot.
C'est jusqu'à demain soir, on vous attend nombreux.
Merci à vous, à tous les Marseillais qui nous écoutent effectivement. Merci monsieur l'ambassadeur, à très bientôt. 19h48, on continue le face-à-face avec notamment Emmanuel Dupuis, mais également Rudy Cassis. Emmanuel Dupuis.
Oui, bah, je voulais juste rappeler aux auditeurs qu'il existe une très belle initiative, c'est dommage que l'ambassadeur soit parti, puisque depuis cette année, il existe une journée de la Méditerranée le 28 novembre, et donc comme il existe une journée de l'Europe, pour un petit peu conscientiser, si j'ose dire, les jeunes des deux rives, hein, l'année dernière, ce sommet s'appelait le sommet des deux rives, cette année, il s'appelle le forum méditerranéen, rappeler cette très belle histoire, une histoire multisécuritaire,
séculaire, plurimillénaire, pourrait-on dire, mais qui nous rassemble. Hein. On ne peut pas penser l'avenir du continent européen sans penser à la Méditerranée qui unit avec le continent africain. Et je crois que c'est ça un petit peu ce dont il était question, que dont il sera ces questions ces prochains jours.
Messieurs, tout de suite, ce que je vous propose, c'est peut-être de traiter ce second et dernier sujet. Je vous laisse le choix. Pécresse ou les EHPAD? Qu'est-ce que vous souhaitez?
Pile ou face. Pile ou face.
Non, c'est, vous, c'est vous, je vous laisse le choix, les amis. Les amis débatteurs. Les EHPAD, allez, les directions, les EHPAD, tout de suite. Allez, le scandale des EHPAD, la patronne de Korian défend le modèle, justement, et elle va s'en expliquer. Alors, il est visé, le groupe Korian est visé par des dépannages de maltraitance en EHPAD, similaire, hein, donc à Orpea. C'est Sophie Boissard, hein, qui estime que le secteur souffre surtout d'aide des pouvoirs publics. Messieurs, autre scandale qui éclate encore de nouveau, Emmanuel Dupuis.
Oui, alors c'est pas le
Que se passe-t-il?
Déjà, c'est une découverte de nos sociétés qui sont de plus en plus âgées, avec un secteur qu'on appelait d'ailleurs avant on appelait ça le troisième âge, maintenant on appelle ça le quatrième âge, avec des sociétés de plus en plus vieillissantes, et c'est très bien, on vit de plus en plus longtemps, on vit de mieux en mieux, pourrait-on ajouter, avec un vrai scandale qui nous ramène non pas au cas précis de Orphéa, ou d'Orpea, pardon, ou de Korian, ou des autres, puisque c'est un secteur très lucratif. Mm-hmm. Toutes ces sociétés dont on parle sont cotées en bourse. D'ailleurs, le titre Korian a déjà perdu 37%
c'est ça,
à l'annonce
exactement.
De cette prochaine émission.
Absolument.
Ils vont peut-être demander à se retirer aussi, comme Orpea.
Les maltraitances, le feuilleton continue. C'est surtout
au-delà
ça.
Au-delà des maltraitances.
Au-delà des maltraitances.
Non, mais les maltraitances sont très importantes.
Je pense qu'il ne s'est jamais arrêté.
Mais bien sûr. Et d'une certaine façon, on fait mine de découvrir quelque chose qui est éminemment scandaleux, mais qui a toujours été une réalité. C'est-à-dire la marchandisation de la dépendance. Avec des économies de bout de chandelle pour essayer d'optimiser ce que l'on peut récupérer sur cette nouvelle dimension qui est la silver economy, c'est-à-dire l'économie des cheveux, des tempes grises et des cheveux grises, des cheveux gris, des cheveux blancs. Et je crois que c'est particulièrement scandaleux parce que ça touche à nos familles, ça touche à nos parents, à nos grands-parents, mais que, hélas, on fait mine de découvrir quelque chose qui existe depuis déjà, malheureusement, beaucoup trop de temps.
Moi, je me pose la question, ne faut-il pas nationaliser ces entreprises?
C'est une vraie question.
Pourquoi? Parce que, pour moi, le service public est calibré, enfin, après, c'est un point de vue, le service public est calibré, en fait, pour pouvoir rendre un service public comme cela, son nom l'indique, et pour ces sociétés qui sont cotées en bourse, alors après c'est pas un tort ni un mal, hein, mais le problème c'est que ça induit parfois des comportements qui sont un peu trop tournés vers le profit. Je vais pas faire mon bashing du néolibéralisme, mais il y a quand même effectivement des comportements liés à une pratique exacerbée du néolibéral qui tendent effectivement à faire du profit, sauf que là, le profit c'est pas un problème. En tout cas, ça l'est quand il y a un problème de répartition des richesses. Là, en l'occurrence, c'est pas réellement le cas. Mais là, ce qui pose problème, c'est qu'on fasse du profit sur le dos de nos aînés et de nos anciens. Donc déjà, comme on en avait discuté il y a pas longtemps, ça pose un problème de modèle de société. Est-ce que ce modèle est adéquat par rapport au respect qu'on voue aux anciens? Est-ce qu'aujourd'hui, la société actuelle voue un respect conséquent certains aux anciens? On l'a vu aussi pendant la crise du Covid-19, notamment au début, que les EHPAD, les morts des EHPAD n'étaient pas comptabilisées, que on se débrouillait un peu comme on voulait pour pouvoir traiter le Covid-19 chez les personnes âgées, et ça s'est pas fait de la manière la plus académique, surtout si on ajoute à ça la manière dont on se comporte vis-à-vis d'eux dans ces établissements. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion.
Sauf que là, le géant Korian, maintenant, il est mis en cause.
Il ne sera pas le seul.
Le scandale continue de poursuivre, évidemment,
son petit chemin. Il faut une réflexion. Il faut une réflexion philosophique, anthropologique sur la manière dont on perçoit nos anciens, parce que les anciens, c'est aussi l'expérience. Vous savez, quand on dit qu'il y a plus qu'un ou deux poilus qui restent, on est un peu triste parce qu'on se dit c'est une partie de l'histoire qui part, mais en même temps c'est le cycle de la vie. Comment est-ce qu'on considère nos anciens? Moi, par exemple, j'ai perdu tous mes grands-parents.
J'aime le terme nos anciens. Voilà. Je dis pas les personnes.
Moi, j'ai perdu tous mes grands-parents. J'ai un grand-père qui a fait beaucoup de choses, et quand il est parti, j'ai été piqué non seulement parce qu'il y a le côté affectif. justice, mais aussi la mémoire qui part. Et c'est ça, en fait, qui devrait nous indigner, c'est cette mémoire-là qu'on ne respecte pas.
Et
d'un côté, effectivement, il faut peut-être penser à nationaliser, c'est pas une idée en soi, mais moi je le pense, pourquoi pas nationaliser pour être sûr que le travail va être fait dans les règles de l'art, parce que lancer des enquêtes d'inspection générale, quand on sait déjà ce qui se passe, c'est comme créer presque une usine à gaz qui ne fera que lâcher du gaz et ne pas traiter les problèmes dans le fond.
Emmanuel Dupuy.
Oui, alors moi je suis assez d'accord avec l'idée qu'il faille considérer les personnes âgées ou nos aînés comme autre chose qu'un produit. Un produit marchand. Mais je ne veux pas non plus que l'on donne l'impression que le service public est la panacée. Premièrement, parce que le service public dépend...
Là, vous adressez à...
Très largement des subventions dont...
Sinon, on serait content de la SNCF.
Dont l'État dispose. Et d'une certaine façon, ce n'est pas parce que vous avez l'opprobre sur quelques compagnies que le caractère... comment dire, du service public ou du service privé, est forcément totalement répréhensible. Il y a des brebis galeuses. Ces brebis galeuses doivent être sanctionnées. Je crois que c'est d'ailleurs ce dont il est question. Et le livre Les Fossoyeurs, qui a révélé le scandale des EHPAD, en l'occurrence d'Orpea, est bienvenu. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte. Premièrement, mettre plus d'argent du service public en général sur la dépendance, quels que soient les établissements qui la reçoivent.
J'aimerais évidemment dire un petit mot, parce qu'on arrive au terme de cette émission, avant de retrouver Bilal Edman qui va nous annoncer son programme. Vous savez, des messages de toute la planète ont afflué pour saluer la mémoire de qui ? De ce petit garçon de 5 ans. Qui était tombé dans un puits près de Chefchaouen, donc au Maroc, et la mort du petit Ryan, tombé, donc, qui a suscité une émotion mondiale. Moi, je retiens une chose dans cette émotion mondiale. Solidarité, unité, au-delà de ça, effectivement, vous avez raison. Et puis, mobilisation. On a oublié cet ADN qui constitue l'humanité. Il est très important. Le petit Ryan vient nous le rappeler, effectivement. Un mot sur Ryan. Et j'adresse mes sincères condoléances à toute sa famille et ses parents.
Pareillement, j'adresse...
Parce qu'il nous écoute au Maroc aussi.
Des condoléances pour sa famille. C'est une épreuve tragique. Et ça met aussi le doigt sur toutes les tragédies qui concernent les enfants, qu'elles soient accidentelles ou non. Et c'est important, effectivement, de s'émouvoir de la mort de Ryan, mais c'est important aussi d'avoir un mot et un regard sur les tragédies qui concernent les enfants, de façon à ne pas être une société de l'émotion, mais une société de l'émotion.
Emmanuel.
Oui, bah évidemment, je n'ai rien à ajouter à ça. Je vais juste rajouter un élément. L'importance de la rapidité et de l'efficacité des services permettant de sauver les futurs Ryan, ça c'est très important.
Exactement.
Et que cette communauté...
Et les autres Ryan, même, on peut dire.
Les autres Ryan, les Ryan à venir, c'est ce que j'ai dit.
Mais même les présents.
Bah oui, bah, juste présent, oui.
On dort en antenne. Il n'y a pas de médiatisation là-dessus, mais il y en a.
Merci en tout cas. Effectivement.
L'important, c'est que, évidemment,
en tout cas,
au-delà des différences.
Je rends l'antenne, les amis.
Entre les pays, la solidarité et l'empathie l'emportent toujours.
La solidarité l'emportent et l'empathie l'emportent toujours.
La compassion, même.
Ça, c'est bien la compassion, émotion planétaire. Et un grand respect et bravo à toutes ces équipes qui se sont mobilisées durant ces 5 jours. Bonsoir, les Bilal Nedman. Time Sport, qu'est-ce que vous nous proposez comme menu ?
On avait parlé aussi du jeune Ryan, c'est vrai.
Et la victoire du Sénégal.
Dernier, mais on va parler du sacre. Le premier sacre du Sénégal.
Première étoile.
Africain, voilà, le sacre. Cissé succède donc à Belmadi. Eh oui, la formation peut-être la française du côté de cette CAN. On va parler de cela. Et Messi,
salutations,
ça va faire plaisir, ça. Ou même à Rudy. Messi et le Paris Saint-Germain qui montent en puissance à l'approche de ce 8e de finale face au Real Madrid.
5-1.
On le rappelle. Et le Barça New Look. Voilà.
Ah, le programme qui vous attend, c'est de 20h à 21h. Merci à vous. Merci à la réalisation à Yanis. Demain, vous savez, on lance la présidentielle demain. Rendez-vous à ne pas manquer à 18h30, un peu plus tôt. On se retrouve donc un peu plus tôt, de 18h30 jusqu'à 20h, avec le premier candidat qui vient ici jouer le jeu et se livrer donc aux questions-réponses. Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts. Demain, c'est le rendez-vous à ne pas manquer, de 18h30 jusqu'à 20h. Et vous-même, vous viendrez l'interpeller au 01 53 48 3000. À demain, 18h30.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.